parlements nationaux se prononcent.
Alors, est-ce que vous avez encore 5 minutes de courage? Parce que là, vous venez de soulever une question qui est en même temps cruciale et pas très simple. Parce que c'est compliqué. Là, vous venez de soulever une question qui est en même temps cruciale et pas simple. Sur les histoires de ratification. Alors, le calendrier. Le calendrier, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la Commission donne au Conseil des ministres le texte qu'elle estime avoir terminé, le Conseil des ministres vérifie si ça correspond au mandat initial et l'envoie à la ratification du Parlement européen. Pour ce qui concerne le CETA, par exemple, puisque au niveau du TAFTA, le texte n'est pas terminé, hein, il est encore en négociation. Pour le CETA, ce qui va se passer au mois de septembre, c'est que la Commission ne posera pas un texte devant le Conseil des ministres, mais trois. C'est-à-dire le texte du traité lui-même, mais aussi la question de la mixité du traité et la question de l'application provisoire du traité. C'est-à-dire que, normalement, les accords qui concernent l'investissement et le commerce relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. C'est ce que dit le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ces accords, donc, ne sont ratifiés quand ils relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne que par le Parlement européen. Mais vous avez vu qu'ils relèvent aussi des normes. Il y a des normes dans les traités, des réglementations dans les traités dont il est question. Donc, ils doivent être considérés comme mixtes, c'est-à-dire relevant de la ratification du Parlement européen et du traitement national. Là-dessus, nous avons notre ministre qui nous dit « Ah ben vous voyez, nous on va se battre pour obtenir la mixité, on va obtenir la mixité, et donc, au Conseil des ministres, et donc il y aura nécessairement une ratification du Parlement national, et tout va bien, verrou démocratique, patin couffin. » Sauf que ce que ne dit pas le ministre, c'est dommage parce que ça ne serait pas beaucoup plus long, c'est que la Commission posera une troisième question. S'il y a mixité, y aura-t-il application provisoire? Parce que figurez-vous que le traité de fonctionnement de l'Union permet que quand la mixité est déclarée, qu'il y ait une application provisoire du traité. C'est-à-dire, et c'est un petit peu rock'n'roll sur le plan démocratique quand même, que le traité n'est pas encore ratifié par le Parlement national, mais on va l'appliquer pour ce qui concerne la compétence de l'Union. C'est-à-dire... le mécanisme de règlement des différents investissements État et les mécanismes de libéralisation. Et ça, figurez-vous que même déjà on a une date. C'est-à-dire que la Commission a dit que si la mixité est déclarée, l'application provisoire commencera dès mars 2017. Le ministre vous en a pas parlé de ça. Pas plus que quand il parle des verrous démocratiques, au moment de quand il dit il y a des verrous démocratiques devant le Parlement national, il ne vous a pas parlé, par exemple, comment lui, ministre, avait posé le traité Union européenne-Colombie-Pérou au Parlement, un 4 septembre à 2h du matin, en pleine rentrée parlementaire, à 2h du matin, ils étaient quatre appuyés sur des trucs, le traité Colombie-Pérou fait à peu près cette taille-là, il y avait deux autres textes avec, en tout, ça faisait un paquet comme ça, et hop, c'est passé à 2h du matin. Ça, c'est les verrous démocratiques façon gouvernement français. Donc, il va falloir faire très attention aussi à ça et ne absolument pas hésiter à hurler contre l'application provisoire. Parce que s'il y a mixité, il y aura application provisoire. D'ailleurs, à propos d'application provisoire aussi, Union européenne-Corée, il a été déclaré mixte en 2010, ratifié en 2010, application provisoire en 2010, nous sommes en 2016, le Parlement français l'a toujours pas vu. Il n'y a pas eu le temps encore. Vous voyez, les verrous démocratiques à la Fekel.
Par contre, l'unanimité du...
Ah oui, l'unanimité.
Ça, c'est... Le CETA est confirmé ou pas?
Oui, tous les accords. C'est-à-dire que, au moment du Conseil des ministres... Les conseils des ministres peuvent refuser d'envoyer le texte à la ratification s'il y a une minorité de blocage. Je veux dire par là, s'il y a 4 gros et 3 petits, ou 3 gros et 4 petits, je ne sais plus, qui disent non, on ne veut pas. Donc là, il faut une majorité qualifiée pour aller jusqu'à la ratification. Mais en réalité, sa majorité qualifiée, c'est ce qu'il y a dans les textes. Mais en réalité, politiquement, c'est l'unanimité. C'est-à-dire qu'il suffit d'un État qui dise non, surtout si c'est un gros, c'est fini. Politiquement, c'est fini. Politiquement. Juridiquement, c'est la minorité qualifiée.
Mais quand c'est juste la Grèce qui dit que non.
Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'allais enchaîner, mais vous êtes au courant, donc vous avez eu l'information. Il y a la Grèce et le Portugal qui ont annoncé qu'ils diraient non. On ne sait pas s'ils vont le faire. Ils ont annoncé qu'ils diraient non. D'ici le mois de septembre, on ne sait pas, il peut se passer beaucoup de choses. Juridiquement, ce n'est pas suffisant. Politiquement, si les deux disent non, le truc a du plomb dans l'aile quand même.
La Grèce est crédible aux yeux de l'Europe.
C'est ça.
Le Portugal,
c'est ça, exactement. Exactement.
Encore deux, trois questions, peut-être.
Mais c'est tout.
On va s'arrêter.
Je suis tout à fait d'accord.
Par exemple, en cas de référendum, par exemple, si les Français disent non, et puis après, c'est voté à l'Assemblée nationale, le contraire. Comme c'est déjà arrivé, le traité constitutionnel, par exemple.
On n'en est pas là. Déjà, si effectivement le gouvernement décidait qu'il y ait un référendum, ce serait déjà pas mal. Mais on n'y est pas. Hein. On n'y est pas.
Régis, oui.
Oui. Eh bien, par exemple, ce qui ne serait pas appliqué, c'est les normes, tout l'aspect normatif ne serait pas appliqué. Mais c'est théorique. Parce que, en fait, encore une fois, c'est théoriquement que les normes relèvent de la compétence des États. En pratique, les trois quarts des normes viennent de l'Union européenne. Donc on se trouve en réalité devant un imbroglio absolument indémêlable. Merci, j'allais dire autre chose, mais c'est pas le bon mot. Indémêlable. Et là, on est devant des difficultés, mais vraiment terribles. Imaginez aujourd'hui qu'arrive Union européenne-Corée devant le Parlement. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre que « bah oui, on signe ». Ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'il est en fait appliqué. C'est vraiment la mise devant le fait accompli. Hein.
C'est un coup d'État contre la démocratie.
Ah oui, c'est un coup d'État permanent, ce truc. Oui, oui.
Est-ce que je peux vous poser deux questions rapidement? C'est, vous n'avez pas parlé des mécanismes de règlement des différends en matière d'environnement et en matière sociale qui sont prévus par le TAFTA. Là, donc, qu'est-ce que vous... C'en est où?
Par rapport à l'environnement, on en a parlé.
Ils sont en différents investissements.
C'est vrai. Il y a une différence entre... Oui, très juste. Il y a une différence entre le CETA et le TAFTA, c'est que dans le mandat de négociation du TAFTA, le mécanisme de règlement des différents investisseurs États ne s'applique pas seulement à l'investissement, il s'applique à tout. Bon. Voilà. Donc là, alors, je dis ça et je précise tout de suite derrière que la distinction qui est faite dans le CETA est une distinction très théorique là aussi. C'est-à-dire que vous avez l'ICS qui est décrit dans le chapitre sur l'investissement, mais l'investissement peut toucher tous les domaines. Donc, vous pouvez très bien avoir, par exemple, un opérateur de pétrole qui n'est pas content parce qu'on lui oppose une norme environnementale. Ça, bien sûr, ça rentre dans le cadre du mécanisme de règlement des différends du chapitre 8 du CETA. Évidemment, ça a un impact sur l'environnement, mais ce sera pris sous l'angle investissement. Donc, ce qu'il faut, il ne faut pas s'encombrer des distinctions un petit peu, comment on appelle ça, sexe des anges, qu'il y a dans l'accord CETA, puisqu'en réalité, le simple fait de dire que les investisseurs pourront attaquer une mesure qui constituerait, comme je vous l'ai dit, une mesure arbitraire, etc., etc., ça peut concerner, avoir un impact sur tous les domaines. Alors, sur la question spécifique du social, il y a un chapitre dans le CETA qui parle des questions sociales, en termes plutôt vagues, enfin, comme je vous ai dit, hein, on devrait faire que, etc., etc. Mais pour le reste, et pour autant qu'on en soit informé dans le TAFTA, il n'y a aucune distinction de fait.
Mais le TAFTA, il y a quand même dans le mandat de négociation, il y a quand même un chapitre qui est... les trois mécanismes sont en négociation.
Oui.
Ils sont différenciés.
Pourquoi ils sont différenciés? Parce que vous avez investissement et vous avez un chapitre qui s'appellera développement durable et un chapitre qui s'appellera commerce et environnement. Et vous avez donc dans investissement tous les trucs durs, c'est-à-dire tous les trucs efficaces qui ont des conséquences, c'est-à-dire le mécanisme d'arbitrage qui a des conséquences concrètes. Et pour le développement durable et l'environnement, vous aurez les engagements optionnels. Voilà, c'est ça l'idée qu'il y a, enfin l'idée, c'est pas une idée, en l'occurrence dans le CETA, on le voit mis en place effectivement comme ça. Je sais pas si j'ai vraiment répondu. Non, c'est pas ça. Bon, alors j'y suis pas. J'ai pas compris alors. Pas d'autres questions. Bon.
Merci.
Eh ben, merci de votre attention.